Des livres et nous. Des livres et nous, Benjamin Warlop.
Bonjour à tous, bienvenue dans Des livres et nous, nouvelle émission cette semaine. Je suis ravi de vous retrouver, Anna, Prem et Zoé. Ça va les filles et les garçons?
Bonjour.
Ça va.
Salut. T'as le droit de parler, Prem. Hein.
C'est vrai. Les filles et les garçons, tu m'avais oublié, à vous.
À vous, ouais, mais on a toujours un truc dans le regard tous les deux qui pétille et qui fait « j'aime la vie ». Voilà. Avant de présenter notre invité, un chiffre qui nous vient des US, moins 10, soit la baisse en pourcentage des ventes de livres numériques sur les 5 premiers mois de l'année aux États-Unis. Un chiffre qui s'explique par des nouveautés moins fortes, nous dit le Figaro, mais aussi par des prix en augmentation. Moi je vous le dis les mecs, on a eu du nez quand on a lancé l'émission Délivrez-nous sur Temporium Radio. Non mais bon, ça va se développer, ça arrive des années où ça marche pas, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses
oui,
toi?
Oui, c'est porteur, moi j'y crois énormément.
Ah ouais, mais tu fais super bien le...
T'as vu comment je joue?
L'économiste et tout. Ah, je suis impressionné.
T'es brillant, sur le côté.
Bah, ils sont là que pour ça, tu sais bien.
Non, je crois pas.
Tout se passe entre nous, Prem, hein, tu sais bien. Notre invité cette semaine, ce sera Gilles Pétel pour un livre exhibition qui m'a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la première de couverture, on en parlera avec lui. Et avec nous, comme il y a quelques semaines de cela, Claire Berthier,
oui,
Dilly Book et Storylab Edition. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors vous êtes là ce matin, parce que déjà vous nous aimez bien et nous on vous aime bien aussi, pour parler de la rentrée Iggy Book. C'est quelque chose qui vous tient, qui nous tient à cœur. Qu'est-ce
oui.
donc?
Alors en fait c'est la rentrée des Indés qui est une initiative menée par Iggy Book. Donc l'idée c'est que pour les 40 auteurs qui participent à l'opération, de bénéficier d'une visibilité dont les auteurs indépendants bénéficient vraiment rarement. Les auteurs indépendants c'est les auteurs qui font le choix de l'auto-édition. Sur cette opération, on a des partenaires qui vont relayer l'opération. Il y a des partenaires comme Apple avec l'iBooks qui va mettre en avant les livres dont on parle. Il y aura Babelio qui est un grand réseau de lecteurs aussi qui va proposer les livres aux membres. Et puis il y a Actualité qui est un site, le site d'actu de l'édition qui va relayer des interviews d'auteurs et parler de cette opération. Et puis il y aura un site dédié, il y aura des campagnes sur internet. L'idée c'est de dire oui à la rentrée littéraire et puis il y a plein d'autres auteurs dont on parle pas qui sont ces auteurs auto-édités.
C'est un petit contre-pied quoi.
C'est un petit contre-pied et puis c'est pour parler de ces auteurs et de l'auto-édition qui apporte vraiment des choses nouvelles et très sympas. Donc pour présenter rapidement, ça regroupe plein de profils différents d'auteurs. Il y a des auteurs qui sont 100% édités. Il y a par exemple Jérôme Dumont qui a publié une série littéraire, il a vendu à peu près 1000 exemplaires. Il y a Charlie Beckman qui est un auteur vraiment de l'auto-édition, qui a auto-édité plusieurs livres, qui donne des conseils pour les auteurs pour leur dire comment s'auto-éditer. Et puis il y a d'autres auteurs en fait qui par ailleurs ont publié dans des grandes maisons d'édition. Donc il y a Gilles Pétel qui interviendra tout à l'heure, qui a publié chez Stock. Il y a Nicolas Pelletier qui a publié chez Fayard. Omar Benlala qui a publié Au Seuil. Donc voilà, ça regroupe tous ces auteurs-là. Et on en a profité en fait pour leur demander ce qui leur plaisait dans l'auto-édition. Et là, c'est assez sympa parce que tous y disent « Voilà, moi, je trouve que ça me donne vraiment une liberté pour mener mon projet. » Il y en a qui disent bah, « Quand on passe par un éditeur, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. » Pour au final, parfois même ne pas être publié, là, je maîtrise les délais, ça va vite, on est réactif, c'est souple. Et puis, il y a aussi cette idée d'être proche de ses lecteurs parce qu'il n'y a pas l'intermédiaire de l'éditeur, du libraire. On casse un peu tous les intermédiaires. Donc, bref, beaucoup d'auteurs aux profils différents se retrouvent dans l'auto-édition
bah ouais,
et il s'agirait d'en parler.
Vous cassez voilà. les barrières, les codes et tout.
Voilà,
tout
c'est
monde
ça. Ouais.
Il n'y a pas l'élite éditée par les
Exactement.
Grandes maisons d'édition. Tout
ça,
le monde est un gros brassage, on aime bien.
Voilà.
Prem aussi aime bien les gros brassages.
J'adore les... Quoi ? Qu'est-ce que tu me fais
dire ? Comme les yaourts brassés. Voilà, transition terrible. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous.
Merci.
Gilles Pétel va venir nous rejoindre pour parler de son livre « Exhibition ». Bonjour Gilles.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va bien, un peu fraîchement ce matin, mais ça va bien.
Ben oui, c'est ça, c'est l'automne, c'est l'octobre, les feuilles qui tombent, mais le bonheur dans nos cœurs. Vous êtes auteur de plusieurs livres chez Stock, elle est consternée,
c'est
Anna.
Horrible. Je n'en peux plus.
Beau CV, non?
Pardon?
Beau CV? Pour vous.
Bah, si vous voulez, oui. Bah, j'ai publié 5 romans, donc 2 chez Fayard et 3 chez Stock, et dont le dernier a été traduit en anglais, donc j'étais assez content de ça. Voilà.
Et donc maintenant, en auto-édition, Claire nous en parlait via la plateforme Igibook. Qu'est-ce que ça change pour vous, cette approche
L'auto-édition, alors c'est vrai que c'est un peu rapide, c'est plus rapide que l'édition ordinaire. Ce n'est pas le principal critère pour moi. Moi, j'avais la chance chez Stock, je travaillais avec Jean-Marc Roberts, qui est un grand éditeur, mais qui est décédé maintenant, et qui était quelqu'un de très, très excité, on peut dire. Et ça allait très, très vite par rapport à d'autres éditeurs. Donc j'ai été un peu favorisé, je dois dire. En revanche, ce que ça change, c'est la liberté totale sur le texte. Il y a des passages, parfois l'éditeur vous demandait de reprendre. Parfois à raison, parfois on avait des doutes. Et là, il y a une maîtrise complète du processus. Et surtout, alors là, je suis bien d'accord avec Claire, ce qui change, c'est le rapport direct au lecteur. C'est-à-dire qu'il y a tous les intermédiaires, dont les libraires, qui ne sont pas toujours aussi transparents qu'on veut bien le croire. C'est-à-dire que les libraires vont toujours mettre en avant les prix littéraires, quoi qu'ils disent. C'est tout de même vraiment très, très, très codé, très, très attendu, ce qu'on trouve dans les librairies, et beaucoup moins libre que ce qu'ils prétendent eux-mêmes. Et là, on a la capacité à un peu à dynamiter tout ça, je trouve.
Un
ça,
c'est vraiment. Réseau sur un marché en crise, donc.
Ouais, exactement, voilà. Et puis, je pense que c'est une aventure aussi, c'est quelque chose qui est récent en France, l'auto-édition numérique. C'était intéressant d'essayer, je crois que c'est aussi la raison principale.
Donc, vous êtes avec nous pour parler, je le répète, d'Exhibition, qui est sortie le 1er octobre dernier, qui raconte l'histoire, vous m'arrêtez si je me trompe, d'une jeune femme, BCBG en tout cas, de milieu bourgeois,
ouais.
Anaïs, qui va découvrir le milieu de l'art via une galerie et qui va tomber amoureuse d'un homme un peu malsain, un peu chelou, c'est ça ?
Malsain, si vous voulez, chelou, on peut le dire comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné et qui va s'amuser d'elle, absolument, oui.
Qui va profiter, en
qui
tout cas,
va profiter,
de sa jeunesse.
Oui, qui va s'en servir. Elle est jeune, elle a 22 ans. Elle est, enfin, naïve, elle a la naïveté de son âge. Disons, elle n'est pas excessivement naïve. Simplement, elle est fascinée par ce type qui est très médiatisé, justement, et qui rencontre un vif succès. Et donc, elle voit, on ne sait pas si elle le voit lui ou elle voit le succès. Et de sorte qu'il va vraiment s'en servir un peu comme d'une chose.
Elle a l'âge d'Anna et de Zoé. Vous êtes reconnue dans cette Anaïs ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout non plus.
Mais parce que vous êtes des jeunes filles très équilibrées.
Exactement, c'est
ça.
C'est à peu près ça.
Ouais, on va dire ça, ouais.
On commence du coup.
Oui, bien sûr.
C'est très mitigé en fait. Alors, je pense que c'est une histoire de goût comme tous les livres. Moi personnellement, mais après j'ai d'autres points à souligner, mais moi j'ai pas été bouleversée. C'est ce qui m'a gênée. J'ai pas ri à en pleurer justement.
D'accord.
Enfin, j'ai pas été bouleversée.
Ouais, okay.
Mais moi j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans ce bouquin quand même. C'est que malgré
malgré tout,
non,
malgré,
mais c'est, tout. Malgré l'histoire liée à l'art qui est en plus même pas mon domaine, qui me personnellement
ça, c'est un peu là, ouais.
Qui me touche pas plus que ça, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans votre livre, c'est ce côté critique. Je sais pas si c'était fait exprès, j'imagine que oui, mais en tout cas je vous trouve très sévère à juste titre envers certains corps de métier, envers certains espaces de la société. Et je pense par exemple, juste c'était trois exemples, vous êtes très critique je trouve, et c'est excellent, c'est délicieux à lire, envers justement ces gens-là qui ont le monopole de l'art contemporain justement. Je me rappelle de ce directeur du musée qui est un peu, il y a le cas des policiers aussi qui vous les grossissez leur caractère, je trouvais ça très intéressant. Et puis le dernier, c'est les forces politiques, quand vous parlez de ce ministre de la culture, enfin je trouve ça délicieux.
C'est-à-dire que la critique principale porte surtout même le monde de la culture et des illusions qu'il véhicule. Tout le monde s'imagine que le monde de la culture est forcément un monde un peu de bisounours, c'est Disneyland de la culture, enfin, puisque c'est forcément le monde où règne le respect, les droits. Or, c'est exactement l'inverse. En réalité, c'est un monde de gens
qui se tirent dessus,
qui cherchent à faire du profit avec des choses souvent qui en font peu en réalité. Donc j'ai voulu un peu m'amuser sous des aspects comiques, mais dénoncer tout de même une grande illusion. Quoi.
C'est extrêmement réussi à mon sens. Ce qui m'a juste peut-être un peu déçu, c'est les personnages qui m'ont pas emballé en fait. Anaïs, je m'y suis pas reconnue, ouais. Elle m'a pas fait rêver. Même le Vendre, Pierre Vendre, qui est justement le
mentor.
Voilà.
Enfin, ouais.
Même lui, moi qui suis plutôt du genre à aimer les bad boys, bon là pour le coup il m'a pas emballé. Bon, je pense que c'est une histoire de goût.
C'est un bolos quoi.
un bolos.
Ouais, moi j'ai bien aussi aimé vos descriptions, notamment au début du livre, sur le tableau, quand on découvre Anaïs, etc. L'explication d'un tableau, ça peut donner aussi envie d'aller voir des tableaux dans
le
musée.
Le début du roman, effectivement, elle est dans une galerie d'art où il y a des tableaux d'art moderne qui n'est pas l'art contemporain précisément, où on voit bien tout le problème du jugement esthétique. C'est-à-dire que elle est d'abord accrochée par cette toile, elle l'aime bien pour des raisons très sensibles. Ensuite, le galeriste intervient et lui explique que, bah non, elle a tort. Alors c'est la question, est-ce qu'on peut avoir avoir tort quand on aime quelque chose. Et tout le chapitre tourne autour de ça. Et en même temps, il y a un contre-pied, c'est-à-dire que le galeriste, en réalité, est plus intéressé par les formes d'Anaïs que par celles qui sont sur le tableau. Donc c'était aussi une manière de montrer qu'il y a une confusion dans l'art aujourd'hui entre ce qu'on pourrait appeler l'objet esthétique et l'objet humain, quoi.
Est-ce que l'art peut rester uniquement subjectif?
C'est un vaste débat, disons. Mais l'idée, je pense que la plupart défendent, c'est qu'un jugement de goût est un jugement subjectif, nécessairement. Sinon, c'est plus un jugement de goût.
Mais plus on progresse dans le récit, moins on parle d'art, finalement. Et par rapport à cela, je trouvais assez facile, je dirais, de consacrer autant de pages à dénoncer la superficialité de ce monde, ce milieu, comme on était en train de le décrire, très chic, très parisien.
Superficiel, ouais, tu le disais. Ouais.
C'est ça. Et la question centrale de ce roman, c'est la question de la futilité de la vie de cette jeune fille. Parce que moi, ça m'intrigue. Je me suis, je vais vous le dire, je me suis ennuyé, moi, dans ce livre. Parce que c'est des personnages exécrables et qui s'ennuient et qui sont seuls.
Vrai.
Enfin, je ne comprends pas.
C'est un peu je voulais essayer de saisir un peu notre époque, comme je le dis dans un interview à Guybook, à travers l'image que nous en renvoie l'art contemporain. C'est pas forcément une critique de l'art contemporain. D'ailleurs, ce serait un livre un peu emmerdant, même si je suis désolé si vous l'avez lu comme ça. Mais il s'agissait de montrer. C'est une époque très violente. Et, je veux dire, dans l'art contemporain, il y a de la violence parce qu'il y a de la violence dans notre époque. Et les rapports humains sont des rapports souvent de marchandises, si vous voulez.
Oui, il y a des rapports extrêmement sordides au sein de ce livre.
Oui, mais précisément, l'époque est assez sordide quand même, me semble-t-il. Et je pense que le sordide qu'on voit dans l'art contemporain est le reflet de l'époque. Alors même si ça donne un art qui est parfois peu plaisant à regarder. Et donc j'ai voulu montrer cela à travers les pérégrinations de cette jeune fille, quoi, qui va avec un cœur un peu jeune et naïf. Bon, après, voilà.
Et t'évoquais aussi, Prem, ce côté un petit peu voyeur qu'on pourrait avoir en découvrant un petit peu l'histoire et on reste un peu sur sa fin.
Le côté voyeur, justement, il n'est pas. J'ai trouvé assez prude, finalement, cet ouvrage.
Paradoxalement.
Paradoxalement, ouais. On parle vite fait de cette pauvre fille qui se retrouve à coucher avec un mec, assez dégueulasse au fond des chiottes d'une boîte de nuit. Mais on n'a rien, on ne sait pas, on n'est pas l'homme, on n'est pas la femme. Et on sait juste un acte qu'on décrit, c'est « Ah ouais, c'est passé ça, c'est triste. » Et il n'y a pas de remise en question, elle doute, mais elle ne va nulle part. Et
elle est aveugle. Quand il n'y a pas de remise en question, c'est faux. À la fin du livre, il y a quand même un monologue où les choses sont complètement réinterrogées, remises en perspective.
Avec le décompte pendant qu'elle pose nue.
Et pendant qu'elle pose nue. Donc là où elle est exhibée entièrement.
Attendez, dites pas quand même la fin du livre.
Vous dites qu'il n'y a pas de remise en cause, ce qui n'est pas vrai. À la fin du livre, il y a quand même tout à coup, toutes les choses s'inversent. C'est-à-dire elle qui semblait accepter tout de manière un peu bête. On se rend compte que c'est pas si simple. Et puis il y a une allusion à un événement de son enfance. Donc c'est pour ça. Alors après, bon, peut-être qu'on peut me reprocher d'avoir tenu trop longtemps le moment où on comprend le personnage de l'intérieur. Mais aussi, je crois qu'on peut voir des gens qui sont happés et qui filent droit dans le train de la passion sans se poser trop de questions. Enfin, elle l'attend, elle a envie de coucher avec lui. Et voilà, enfin, c'est quand même des choses qui existent, je crois.
Zoé ?
Oui, moi je suis bien d'accord avec ça. Enfin, au début, moi j'avais beaucoup de mal à m'attacher au personnage d'Anaïs aussi. Au milieu, il y a aussi un moment où je me suis un peu ennuyée, où voilà, c'était un peu descriptif, etc. Mm-hmm. Mais moi j'ai trouvé que la fin était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la fin, justement ce décompte. Mm-hmm. Et j'ai vraiment aimé le fait de pouvoir rentrer enfin dans la tête d'Anaïs et de comprendre tout ce qui s'est passé pendant tout ce livre à ce moment-là.
Oui, je vous remercie. Mais c'est à la fin qu'on comprend ce qui se passe dans sa tête. Toute la narration est une narration impersonnelle avec l'intérêt et le risque que ça encourt. Et donc, effectivement, les personnages sont toujours vus de l'extérieur. Mais ici, il y a un sens, c'est-à-dire que comme on voit un tableau, on voit les choses de l'extérieur. Donc, on voit les personnages aussi du dehors. Et juste à la fin, où on a ce qu'on peut appeler, d'un point de vue psychologique, la réintégration du point de vue du sujet, si vous voulez. Tout le livre, c'est un monde d'objets. Les êtres humains sont des objets, quitte à être des caricatures comme la patronne de la galerie Jackson, justement, qui est une espèce de femme haute en couleur, qui est un peu une caricature. Mais il faut attendre la fin pour qu'on ait un renversement de la perspective. Alors après, bon...
Anna.
Alors moi, il y a une partie que j'ai particulièrement appréciée, c'est justement... moi, en tout cas, je ne me suis pas rendu compte qu'elle... Enfin, c'était comme une espèce de descente aux enfers, la rencontre avec ce vendre. Moi, je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Et il y a une phrase qui m'a marquée, vous avez écrit « Une muse plutôt qu'une putain ». Mmh. Et c'est exactement ça. Mais du coup, moi, je sais plus. Est-ce que c'est la, elle est muse au début ou à la fin? Est-ce qu'elle était putain
avant?
Ah
ben ça, je crois que c'est au lecteur de décider.
Exactement.
Elle se pose la question. Un roman doit, enfin, à mon sens, rester ouvert. On n'est pas là pour dire au lecteur qu'il doit penser ceci ou penser cela. Et de même que j'ai pas non plus, même si, enfin bon, il y a des écrire, enfin, il y a des trucs, mais je veux dire, le personnage vous échappe en partie. Donc je voulais qu'elle se soit ouverte, une muse ou une putain. Et ça reste ouvert.
C'est drôle parce que là, vous avez dit dès le début, là, en parlant, que pour vous, c'était, du coup, il s'était servi d'elle, c'était une chose, etc. Moi, en le lisant, comme vous avez été plutôt neutre en décrivant tout ça, moi, j'avais plutôt l'impression qu'il l'aimait ou qu'il y avait quand même une part de... C'est pas vraiment... Elle était pas vraiment réifiée, en fait.
Ah non, moi, ça, j'ai pas du tout...
Il ouvre pas son esprit, il lui écarte les jambes. Enfin, c'est assez terrible, moi, je trouve, cette...
Des fois, c'est au même endroit, hein, je veux dire...
Ben ça, je vous laisse responsable.
Ami poète, bonsoir.
Auprès des auditrices. Non, mais tout ça pour dire qu'on peut avoir une interprétation différente, peu importe ce qui se passe, et que ça passe pas forcément par la psychologie, mais des fois physiquement, tout peut se traduire aussi. C'est ce que tu voulais dire, Anna.
Exactement.
Ah
ça.
Voilà, bah merci, merci.
Merci Ben.
Parce que je vois m'enfoncer là. Zoé, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, moi justement, je voulais dire que moi, je voyais pas du tout une histoire d'amour là-dedans. Enfin, moi, je la voyais vraiment comme une muse de A à Z, et que justement, j'ai trouvé ça assez sympa ce côté où dès le début du livre, c'est elle qui est un peu dominante au sein de son couple avec les hommes, etc. Et puis au final, ça, tout s'inverse. Et puis au final, c'est elle qui devient la chose pour avoir un nom au sein.
Oui, il y a ça aussi. Ce qui est juste, le livre est une boucle, si on regarde bien.
Exactement.
Le début du livre, elle est en admiration devant ce tableau qui évoque vaguement un Bonnard quand même. C'est pas Bonnard parce que je voulais pas, bon, pour un tas de raisons. Enfin, ça ressemble aux toiles que fait Bonnard. Et à la fin, dans son monologue, elle rappelle avoir traîné de force, vendre, voir ce Bonnard alors que c'est une peinture qu'il n'aime pas en réalité. Et quand même, il est obligé, il est, enfin, ce Bonnard ou ce nu, disons, il est obligé de dire oui, c'est la beauté. L'amour, la beauté, c'est la même chose. Et donc, effectivement, on peut penser aussi qu'elle récupère quelque chose.
Exactement.
Du point de départ où c'est elle qui décide. Elle a quand même éjecté un type parce qu'il l'a emmerdé clairement, quoi. Elle est quand même, quand je dis qu'elle est naïve, c'est pour ça, elle est à demi naïve simplement. Elle a 22 ans, mais elle a quand même, bon, le mec l'a fait chier, il la prend un peu rudement et il la, voilà. Donc et à la fin, on retrouve ça effectivement. Donc je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles du personnage.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gilles Pétel, d'avoir été avec nous. C'était très agréable. Vous avez très très bien défendu votre livre. Je vous mets 9 sur 10 sur,
écoutez, c'est une
sur votre défense de votre livre. Ouais, vraiment.
Moi, je vous remercie beaucoup.
Exhibition aux éditions, en auto-édition sur Iggybook. 4,99€, c'est un prix qu'on retrouve généralement sur les livres numériques, une 150-160 pages.
À peu près, oui.
À peu près,
ouais,
environ.
Environ, oui, parce que sur le numérique, il n'y a pas de pages, c'est ça qui est très curieux. Oui. Donc c'est toujours un peu, en gros, oui, ça fait un livre de 160-180 pages.
Ça dépend de la taille de votre appareil, en fait.
À peu près, voilà, c'est pourquoi c'est un peu gênant, mais c'est comme ça, bon, on s'y fait.
On remercie Claire Berthier d'Iggybook qui était avec nous pour nous parler ce matin de la rentrée des Indés tout le mois d'octobre. Merci Zoé, Anna, Prem.
Merci.
On
merci.
Se fait des gros bisous, des câlins, des papouilles et plein de choses comme ça. On va se faire un petit thé sans sucre, s'il te plaît. Allez, à très bientôt, à la semaine prochaine sur Temporium Radio. Délivrez-nous, reviens bientôt. Bisous.
Délivrez-nous, une émission Temporium Radio.